Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Gomos, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Sophie Rosemont, Olivier Lame et Joseph Ghost. Sur nos platines, And Nothing Hurt de Spiritualized, Be the Cowboy de Mitski et Go to School de Lemon Twigs. Très français ce soir. Et le coup de cœur d'Olivier Lame sera très français aussi pour Aromi Rossono. Boris Pinault est là, qui va surveiller les fils Twitter et Facebook durant cette émission pour donner à entendre vos commentaires sur notre sommaire. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film La caméra de Claire de Hong Sang-soo, distribué par Jour de Fête. Nous ouvrons cette dispute avec une japano-américaine, Mitski Miyawaki, connue sous le nom de Mitski, auteure, compositrice, interprète. Elle revient avec Be the Cowboy, un titre en forme d'injonction, semble-t-il, qui succède à Puberté 2. Bon, j'ai traduit indirectement le titre en français, qui était sorti en 2016. C'est son cinquième album qui sort ces jours-ci, donc elle n'a pourtant que 27 ans. 14 titres en 32 minutes, elle frappe vite et fort, avec des paroles sur lesquelles il faudra sans doute s'arrêter. À titre d'exemple, nous écoutons A Pearl. Extrait de l'album Be the Cowboy, nouvel album de Mitski chez Dead Oceans. Sophie Rosemont, pour commencer.
Une fille ouvre une fille. Oui, Be the Cowboy.
Il faut que je commente. Vous êtes entrée en matière ou pas?
Non, mais
est-ce que vous voulez être un cowboy, Sophie?
J'étais en train de regarder un petit peu ailleurs et voilà. Et Arnaud Laporte m'a dit « Allez-y, Sophie Rosemont ». Et je me dis « Zut, je ne me voyais pas spécialement ouvrir sur Mitski, même si je l'aime beaucoup. »
Pourquoi ?
Mais je serai un cow-boy sur cette intronisation de Mitski à la dispute. Peut-être parce que, tout en étant très séduite par cet album, vous avez dit que c'était court. C'est vrai que c'est court, intense, très efficace. Je crois qu'il faudra encore du temps pour m'adapter à certains titres. Ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est la force narrative, évidemment. Bon, là, on parle de transformer la douleur, la mélancolie, la déception, la rage en espèce de sentiment de surpuissance, ce qui lui va très bien, ce qui apparaît aussi par les variations vocales. Elle a une voix quand même très, très belle, avec de beaucoup, beaucoup de possibilités, tellement que parfois on s'y perd et puis on s'y retrouve assez vite. C'est de très loin son meilleur album. Les deux premiers avaient été enregistrés quand elle était à la fac. Il me semble que c'était plus ou moins des mémoires ou entre guillemets, des mémoires de thèse, d'études. Et les deux précédents m'avaient plu, mais
sans plus.
Celui-ci m'interpelle davantage, peut-être parce que voilà, c'est aussi le récit d'une jeune femme qui, c'est même pas une question de se trouver, parce que la quête est toujours là et elle l'assume, mais tout simplement qui a décidé d'être plus forte que tout le monde, y compris des garçons et des filles dont elle croise la route. Et puis il y a quand même des petites formules assez drôles, comme je crois nobody fucks me like me.
C'est vous
assez rigolo. Non, je n'oserais pas. Je suis trop.
Soyez donc fluente.
Personne ne me fait l'amour aussi bien que moi-même.
C'est bien dit comme ça.
Voilà, j'ai fait la version version musée là un petit peu là, voilà, ouais. Version soft. Donc voilà, c'est inspirant, je suis assez inspirée, mais peut-être qu'il faut que je continue à m'y plonger. Est-ce que c'est parce que c'est trop court et intense justement, ou alors parce que peut-être que c'est trop court, peut-être pas assez intense. mes humeurs varient aussi bien que d'ailleurs
c'est son timbre. Mais intéressé, on vous entend, Joseph Gosne.
J'aimerais revenir sur la traduction, si ça ne vous embête pas, parce que je pense que c'est important. Quand elle dit "Nobody fucks me like me", on entend vraiment le mot baiser en fait. Et je crois que qu'il y a une différence parce que tout est dans les détails. Moi je suis assez novice dans l'univers de cet artiste, et j'avoue que les trois premiers morceaux m'ont un peu ne m'ont absolument pas plu. Je les trouvais un peu éculés à la fois dans le son, un peu trop démonstratif, et je trouvais les paroles un peu éculées. Je trouvais, tiens, j'ai déjà entendu ça. Les trois premiers morceaux.
Ça tombe bien, c'était le quatrième.
Voilà. Mais je trouve que l'album commence là. Je trouve que l'album commence vraiment. Enfin, il commence à m'intéresser avec ce morceau. Et aussi avec celui qui suit, qui s'appelle Lonesome Love, dans lequel il y a cette phrase Nobody fucks me like me. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est, dans son écriture, c'est le sens du détail. C'est-à-dire, dans ce morceau-là, justement, elle décrit sa façon de s'habiller, pourquoi elle s'habille d'une certaine manière, qu'elle va voir quelqu'un, qu'elle le séduit, ce qui se passe à ce moment-là, etc., de manière assez simple mais très détaillé, et ça m'a plutôt accroché et plu, et du coup j'ai laissé l'album me happer un peu, je m'y suis pas mal pris, et j'aime bien la façon dont il évolue et la fin qui est beaucoup plus que je trouve plus mélancolique, beaucoup plus un peu au piano, beaucoup plus douce et plus sombre aussi à la fois. Donc j'étais plutôt agréablement surpris, même si le début m'a vraiment je trouvais les trois premiers morceaux vraiment vraiment assez exécrables. Voilà.
Si
notamment dans la production, mais bon, après.
Si vous l'écoutez sur une plateforme ou une autre, allez plus loin que les trois premiers morceaux, peut-être. Premier conseil pratique. Olivier Lam, sur Mitski.
Oui, moi, c'est une artiste que j'avais découvert, je pense, comme beaucoup d'Européens, dans des tops de beaucoup de magazines américains de fin d'année, il y a 4 ou 5 ans, quand elle avait sorti son album précédent, qui s'appelait Puberty 2. Mm-hmm. Super petite, d'ailleurs. La deuxième puberté. Enfin, puberté numéro 2. Mm-hmm. Et je m'étais dit, c'est un truc très américain. C'est une espèce de survivance d'un certain genre de rock alternatif. Je dis même pas indépendant, on va dire de la fin des années 90, qui a une survivance assez improbable dans l'incarnation qu'en donne cette musicienne, sur laquelle je m'étais pas beaucoup penché.
Vous n'y avez pas beaucoup pensé non plus.
Parce que c'est pas de la musique qui m'intéressait beaucoup. Moi, j'entendais Garbage, quoi. Donc,
ouais.
J'avoue que c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie d'entendre de nouveau. Là, il y a encore Garbage. dis encore les Pixies énormément. C'est quand même, faut quand même. Elle a un songwriting qui est quand même très, qui est personnel, mais qui est quand même très influencé et influencé par des choses qui a priori sont plus vraiment d'actualité. Donc ça donne quand même un objet qui est assez étrange. Moi, à l'inverse de Joseph, j'étais vraiment happé par les trois premiers morceaux. Je trouve le deuxième morceau, bon, qui est vraiment dans un arrangement typique de l'époque avec des sons synthétiques, voilà, une espèce de pop synthétique, mais appuyé par des grosses guitares. Et ce qui m'intéressait, c'est que il y a à la fois une efficacité, une volonté clairement de, on va dire, de effectivement de happer le, on va dire, l'internaute qui vient cliquer sur son SoundCloud, sur Pitchfork, pour ne pas le citer. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne, comment dire, des choses qui ne s'imbriquent pas tout à fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elle, il y a toujours des dysfonctionnements dans ses chansons. Soit qu'elles sont trop intenses, ou qu'elles le sont pas assez, ou à des endroits un peu particuliers. Et je pense que ça tient vraiment à la fois à sa manière d'écrire des chansons, qui est quand même très typique finalement des années 2010, puisque elle se permet de mélanger des choses qu'à une autre époque on se serait pas du tout permis de mélanger. Et en même temps, à des choses qu'effectivement elle a envie de raconter. Donc ça donne un album de pop quand même qui est très idiosyncratique, hein, mais et en même temps est très personnel. Et en même temps, qui va chercher sur des terrains qui sont pas du tout évidents. Et je pense pour un auditeur, voilà, qui s'intéresse à la pop en 2018, c'est quand même. Et je tape Pixies Mitski, je me rends compte qu'elle fait, elle a fait je sais pas combien de premières parties du groupe ces dernières années. Et c'est tellement évident en fait que ça ressemble un peu à une plaisanterie, quoi. Voilà. Ouais.
Mais sachant que donc, si je compte à peu près bien, elle doit être née en 90 ou 91, ce qui veut dire que...
Très exactement.
Voilà, puisqu'elle a 27 ans ce jour, enfin ce jour pas, aujourd'hui peut-être bon anniversaire, Mitski, allons-y. Inventons une date de naissance à cette jeune femme. Moi c'est vrai que, alors pour le coup je ne la connaissais pas du tout, avant de découvrir ce disque, et je suis un peu comme Sophie, moi je pense qu'il me faut un peu plus de temps, parce que je l'écoute depuis quelques jours à peine, donc même si ça va très vite, et ça c'est une chose que j'apprécie. La plupart des titres font comme celui qu'on a entendu, 2 minutes 30, voire plutôt moins. Et il y a seulement deux titres, dont le dernier qui est une vraie balade un peu longue qui dure plus de 3 minutes. Et qu'il y a une forme d'efficacité que j'aime bien. J'aimais bien, moi, le premier morceau déjà, pardon, hein, Joseph, mais Geyser, Geyser. Mais je me dis, c'est bizarre, voilà, faire du sous Björk aujourd'hui, c'est bizarre. Le deuxième, je me dis, tiens, faire du sous Garbage, sous Pixies, c'est quand même bizarre. Et puis en fait, à la réécoute, je me dis, il y a quand même plus que ça. Il y a cette écriture-là. C'est vrai que je le disais en ouverture, il faut s'intéresser à ces textes, au texte de cette jeune femme. Elle a quand même un sens, oui, du détail, mais pas seulement. Il y a une sorte d'envolée aussi qui passe, une mélancolie. Un peu juvénile, puberté 3 peut-être, cet album-là, Joseph.
Il y a quelque chose de... Enfin, moi, en écoutant ça, j'ai l'impression de voir ce qu'on peut aussi voir dans certaines séries, c'est-à-dire l'état de ce que c'est qu'être une jeune fille américaine aujourd'hui. C'est tout ça qui m'a intéressé. Pour revenir sur ces premiers morceaux, je crois que ce qui a plu à Olivier est vraiment ce que j'ai pas aimé. C'est-à-dire, je sens la ficelle. C'est-à-dire, je sens mon attention sollicitée. Et alors qu'elle lâche le truc assez vite après. Et c'est peut-être ça aussi qui est pas mal. C'est-à-dire, ce dysfonctionnement, comme le dit aussi Olivier.
Mais juste parce que Sophie parlait d'efficacité, et je pense que justement c'est pas tout à fait efficace. C'est ça que je trouve. Il y a une tension dans ces chansons-là. Ouais. Enfin, il me semble.
Sophie Rosemont.
Alors, pour ajouter une référence, les Cardigans, tout de même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être les côtés Pixies et Garbage. Mais pour le côté ludique et très féminin, parce que c'est un album qui se veut très féminin avant même d'être féministe. Je crois d'ailleurs qu'il s'agit même pas de féminisme ici. Mais en tout cas d'une grande féminité, d'un rapport au corps, évidemment, qui se retrouve dans les paroles, dont Joseph soulignait le sens du détail. C'est, le corps est quasiment toujours là, souvent mis en comparaison avec des éléments naturels, urbains, artistiques. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
Il y a aussi un petit côté, enfin, j'ai l'impression d'autoflagellation quand même, qui m'évoque comme ça un peu aussi une cat power. C'est-à-dire, on est aussi dans ce côté, j'ai mal et je vous le montre, mais voilà.
Et je me soigne avec la musique.
Pas sûr.
Est-ce qu'elle nous soigne, nous? Est-ce qu'elle soigne certains auditeurs ou auditrices, Boris Pino, Mitski?
Au moins Dan sur Twitter. Pour lui, Mitski joue sur cet album la carte de l'efficacité rock et n'oublie rien de son côté conteuse. Elle signe un joli millésime 2018.
Oui, conteuse et rock. C'est pas mal, résumé ça. Qui a écrit ça?
Dan sur Twitter.
Dan. Bon, ben merci de cette contribution. Est-ce que vous l'avez déjà vu sur scène, Mitski? les uns et les autres.
Non.
Non. Vous pourrez vous rattraper le 28 septembre à la Maroquinerie à Paris, où elle sera à l'affiche. Et j'imagine qu'elle jouera pas mal de morceaux de ce nouvel album qui s'appelle donc Be the Cowboy, qui est sorti chez Dead Oceans. À suivre dans la dispute Go to School. Autre injonction des Lemon Twigs, Nothing Hurt, c'est peut-être la suite du titre, des Spiritualized. Mais avant de parler des albums précités, le coup de cœur d'Olivier Lam. On reste carrément du côté du Japon, après une japano-américaine, un japonais-japonais.
Tout à fait, qui s'appelle Harumi Osono, donc, qui a fêté ses 70 ans au mois de juin dernier.
Et qui jouait, vous qui avez des jours,
son...
parce que
non,
tant
non,
qu'à
mais,
faire les anniversaires.
Quasiment au jour près, il faisait un concert à Londres, donc son premier concert européen sous son nom, solo. Il est évidemment déjà venu par l'Europe avec Yellow Magic Orchestra dans les années 70 et 80, et 90 par la suite, puisque c'est lui qui a fondé ce fameux trio d'électropop, le pop synthétique, voilà, qui est un des plus grands représentants de la pop japonaise, en tout cas le plus célèbre à l'étranger. C'est un musicien, moi, que j'avais découvert à la fin des années 90, avant même de savoir qu'il était membre avec Ryuichi Sakamoto, notamment de YMO, comme une sorte d'ancêtre et de quasiment à égalité avec Brian Eno de l'ambiance. Et j'avais découvert ses disques. À l'époque, il s'occupait d'un label qui s'appelait Daisy World, qui sortait beaucoup d'excellents disques de musique électronique, vraiment de pointe. En fouillant un peu, je m'étais rendu compte que c'était un musicien qui était actif depuis la fin des années 60 et qui avait notamment fondé un des premiers groupes psychédéliques japonais à la fin des années 60 qui s'appelait April Fool. Ensuite, Happy End, premier groupe très influencé par les États-Unis et notamment par Buffalo Springfield ou Van Dyke Parks et les Beach Boys, qui était le premier groupe à oser chanter en japonais, chanter du rock en japonais, ce qui paraît aujourd'hui assez incroyable puisque c'est, je crois, le deuxième producteur de pop au monde et que 98% de la production est chantée en japonais. Enfin bref.
C'est important.
Et donc entre les deux, un parcours absolument incroyable qui fait qu'on pourrait avoir envie de le comparer à des gens très divers puisqu'il a une carrière qui va vraiment de disques très rock à des Yellow Magic Orchestra, à des disques d'ambiance. Il a énormément aussi composé pour les charts japonais. C'est une carrière qui est impossible à résumer, et malgré tout ça, aujourd'hui, grâce au label américain Light Cineatic, il y a 5 albums qui sortent, dont le plus ancien, qui est son premier album solo qui s'appelle Osono House, est sorti en 73, et le plus récent, en 89, il est encore actif, il continue à faire des disques tous les 2-3 ans, et on a vraiment 5 exemples très différents, un peu, de ce que cet immense musicien, qui moi est un musicien qui compte à mes yeux quasiment autant qu'un Bob Dylan par exemple, a produit entre de la musique synthétique, de l'ambiance aussi, du rock très influencé par les États-Unis, mais aussi très influencé par la musique d'Okinawa, par la musique moyen-orientale. C'est un vrai pionnier, dont évidemment, même s'il chante en japonais, dans la musique présente un intérêt bien plus fort que juste un exotisme aujourd'hui grâce à Internet qui nous permet d'écouter des musiques du monde entier. Je pense que ces 5 disques vont vraiment grâce à Internet, on a entendu son nom quand même circuler de plus en plus ces dernières années. Et là, vraiment, ces 5 albums qui sont, à mon avis, 5 chefs-d'œuvre, on va pouvoir les écouter en disque, pas seulement en fichier MP3 téléchargé illégalement. Et c'est une excellente chose parce que je pense que la redécouverte, on va dire, du patrimoine mondial de la pop ne fait que commencer. Voilà.
Son nom, c'est Harumi Osono. Vous connaissez Sophie Rosemont ?
Très peu, mais j'ai découvert plein de choses en l'espace de quelques minutes grâce à Olivier Lam.
Ouais, c'est le principe et l'intérêt de ces coups de cœur, Joseph Ghost. Je suis sûr que vous connaissez.
Oui, je connais, j'aime beaucoup. Mais oui, enfin, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier. Je rajouterais juste peut-être que Osono a aussi fait parmi les 10 qui sont édités, il y en a un qui est aussi une exploration d'une forme de world music. Dans laquelle il mixe pas mal de choses, des sonorités arabes, africaines, mais aussi françaises, et qui forment une espèce de mix assez étonnant à réentendre aujourd'hui.
Bon, on peut se commander, on peut se procurer les disques en les commandant tout à fait légalement.
Tout à fait.
Et c'est mieux.
Ou en les achetant chez son disquaire préféré.
Ouais, on les trouve chez son disquaire préféré.
Ça commence à arriver la semaine dernière, ouais.
Bon. Et le label Light Asiatic a fait des compilations qui nous permettent de redécouvrir la musique japonaise. Il y a eu une compilation de folk psychédélique des années 60-70, si je me souviens bien. Et il y en a une
qui était incroyable. Il y en a une
autre qui doit sortir, qui reprend justement de la musique électronique, New Age, ambiante des années 80-90.
C'est janvier 2019.
On fera une dispute dessus. Ouais.
Avec plaisir.
On mettra au programme. Ne manquez pas de nous le rappeler, hein, parce que nous sommes évidemment très oublieux. Non, mais Boris Pino est là, qui veille au grain. Aromi Osono, ben voilà, vous allez chez votre disquaire et vous lui demandez les disques de ce grand monsieur.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Passons à présent au nouveau disque des Lemon Twigs, 2 ans après leur premier album. Celui-ci s'appelle Go to School, ce qui tombe évidemment bien, semaine de rentrée scolaire. Mais l'élève dont il est question ici est un chimpanzé, élevé comme un humain, et allant donc assez logiquement à l'école, car oui, il s'agit bien d'une sorte de comédie musicale. Pas étonnant de la part de deux frères qui ont aujourd'hui même 21 et 19 ans. C'est leur anniversaire. Bon anniversaire, les Lemon Twigs. Ils ont joué enfants dans les shows de Broadway, notamment Les Misérables. Est-ce que ça influence leurs goûts musicaux? On va peut-être le savoir en écoutant un extrait de ce nouvel album. Ils y ont tout fait, y compris arrangement et mixage. Ils ont invité quand même quelques soutiens de poids. Alors là, c'est 16 titres pour 58 minutes. J'aime bien donner les temps et le nombre de morceaux. Un exemple, pas tout à fait au hasard, mais je vais même pas noter le titre, mais on en reparle juste après. Wandering Ways, c'était le morceau de ce titre, de ce chapitre du disque des Lemon Twigs, Go to School. Alors, qui est responsable autour de cette table de la programmation de cette bonne blague de rentrée? C'est vous, Olivier Lam?
peut-être, non? Je crois que c'était collégial, non? Je sais plus.
Non, mais assumé, hein.
Ah,
mais
j'assume complètement. Je trouve que c'est un
Alors,
disque éblouissant.
Quelle bonne blague.
Pourquoi?
C'est épouvantable. Comment est-ce qu'on peut écouter une chose pareille? Bah, sans
déjà, on peut,
envie de rire.
Déjà, on peut se demander comment c'est possible, humainement, qu'un duo formé d'un jeune de 19 ans et de son grand frère de 21 ans peuvent arriver à
faire un disque aussi ridicule. Ça, c'est facile, hein. Non, si c'est ça la question.
Je
vous cherchais un petit peu de piquant, mais j'étais tellement consterné en l'entendant ce disque, je ne pouvais pas savoir.
Mais c'est pourtant, il est varié. Hein. C'est,
ah bon?
Ah oui, il est très, très polyphacétique, comme on peut dire.
J'ai cru que c'était 16 fois la même plage, moi.
Moi, je.
Du mauvais Phantom of the Paradise.
Je suis tombé complètement amoureux de leur album précédent, qui s'appelait Do Hollywood, pour la simple et bonne raison que j'y suis arrivé pour le Labyrinthe, puisque c'est des chansons à tiroir, etc. Et je suis resté pour les mélodies, et c'est encore une fois le cas ici, puisque c'est quand même, faut le dire, c'est des chansons très denses, très extrêmement référencées. Alors je me suis un peu amusé sur les deux trois premiers morceaux. Je peux faire une petite liste ou pas? Alors
allez-y, je vous interromprai au bout de 8 minutes.
Les Pretty Things, je pense que ça pourrait durer plus longtemps que ça.
Époque
SF Soro, Small Faces, Black Sabbath, Jean-Claude Vanier, Les Who époque Sell Out, Grand Funk Railroad, Bowie époque Diamond Dogs, Bowie époque Ziggy Stardust, Bowie époque Space Oddity, The Move, Electric Light Orchestra, Van Dyke Parks époque Song Cycle, Cats la comédie musicale, Slade, Queen, T-Rex, les Beatles, NCC, Supertramp.
Est-ce que c'est pas navrant cette liste, Olivier Lam?
Pourquoi en avant?
Bah de faire une liste quand on écoute.
Ce qui m'intéresse en fait, c'est pas la liste, c'est le mouvement dans tout ça, et c'est la manière dont ils arrivent à circuler dans tout ça.
Et vous allez nous en parler dans un instant après avoir écouté l'avis de vos camarades. Non, mais parce qu'il faudra laisser la parole à la défense, me semble-t-il. Joseph Gosne.
La défense.
Lemon Twigs et vous?
Moi, je trouve ça atroce. Enfin, moi, je n'arrive pas du tout à circuler. En fait, le problème que j'ai, c'est qu'effectivement, je n'entends que des références. J'en entends une. J'en entends deux en fait, une qui est très connue et une qui est plutôt inconnue. La plus connue, c'est évidemment Bowie. Même quand on entend le disque de loin, on entend ça, mais c'est pas possible.
C'est gênant.
Et surtout, moi, j'entends, je sais pas si vous connaissez ce groupe qui s'appelle Nirvana, mais le Nirvana des années 60.
Oui.
Le Nirvana anglais des années 60. Et j'ai l'impression que tout est pompé sur ça. Et que même le concept de, on va faire un opéra rock, etc. Il vient de là, les mélodies viennent de là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que chaque début de morceau, on se dit tiens, ça a l'air joli, tiens, ça me rappelle ça ou ça. Et très vite, moi, j'ai l'impression que ça tourne dans le pastiche. Et contrairement à Olivier, moi, je n'arrive pas du tout à circuler, je vois pas du tout le mouvement, et j'ai vraiment, pour le coup, vraiment du mal à avancer, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'en peux plus de ces morceaux.
Sophie Rosemont.
Bon, le titre choisi par Arnaud Laporte ne reflète pas quand même l'album. C'est vrai que celui-ci peut être un peu soporifique, mais on va dire que moi je me situe entre Olivier et Joseph. J'aime cet album, j'avais adoré Do Hollywood. J'aime beaucoup cet album que je trouve d'une dextérité musicale assez dingue. Ils ont quand même tout fait tous les deux tout seuls.
Ouais, ça s'entend.
Enregistré entièrement en analogique. Oh non, mais c'est
non, mais
très, blague, très bien
parce
exécuté.
Il y a pas de quoi se.
Il y a énormément d'émotions.
Il y a plein d'auteurs, compositeurs, interprètes.
L'histoire. Ce singe qui s'appelle Shane, qui a été abandonné au bord de la route, trouvé par un couple d'humains et qui un jour veut aller à l'école. Et il y va. Oui. Bah, ce Mowgli à l'envers, je le trouve très bien raconté. Moi, ça m'a touché. Oui, il va se confronter à la méchanceté des humains, il va retourner à la nature et voir les limites de la solitude, etc. Mais aussi l'amour qui est toujours là. Eh bien, moi, je suis pour ce genre d'histoire. C'est une espèce de récit d'apprentissage très bien orchestré. J'entends pour ma part beaucoup de T-Rex et de Sparks et d'Hammerstein, évidemment. Hein, c'est une des plus grandes références. Mais le défaut, parce que c'est vrai que moi, il y a un truc qui me turlupine un peu dans cet album, c'est la longueur. Trois titres de moins, peut-être vers la fin, ça aurait été parfait. Ils sont peut-être un petit peu trop laissés porter par leur enthousiasme, leur talent aussi, mais leur enthousiasme. Mais après, ils ont effectivement 19 et 21 ans, et celui de 19 ans, il a surtout 13 ans d'âge mental pour l'avoir rencontré plusieurs fois. Il est très brillant, mais il est quand même très très immature. Hein. C'est un peu lui, Shane d'ailleurs. C'est lui, hein, qui a subi un trauma à l'école. Non, mais c'est réel. Donc quand il le raconte, c'est du vécu. C'est pas de l'inventer. Et c'est ça qui m'a touchée. Ce harcèlement à l'école, le fait d'être traité mal par les autres parce qu'on est différent, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Il y en a qui se suicident pour ça, même à l'âge de 10 ans. Donc voilà, écoutons d'une oreille attentive. le témoignage de Brian Daddario. Et le grand frère, lui, voilà, tient tout, les manettes, il est très sage, il s'occupe bien du petit frère qui est insupportable, etc. Et c'est en plus un duo humainement intéressant à voir. En revanche, j'ai peur du troisième album. Est-ce qu'ils vont vraiment se planter ou pas? Est-ce qu'ils vont justement continuer cet enthousiasme un peu trop, comment dire, débordant, qui fait que là, cet album est trop long? Oui, mais maintenant, j'ai pas l'impression que chaque piste se ressemble, même si certaines, comme celle qui a été diffusée, ne rendent pas justice.
Regardez pas avec cet œil noir.
Franchement, à l'harmonie, on peut prendre quand n'importe même, laquelle de l'ensemble.
Vous voulez qu'on en lance une autre au hasard?
Oui.
Dites un numéro. Non, mais sans regarder au hasard.
Deux. Alors, trois.
Alors, on va caler ça. Ah non, on n'a pas le disque? Ah ben non, mince alors. Il est au bureau? Bon, bah c'est comme ça, c'est tant pis. Elle est écoutée par vous-même, parce qu'elle est disponible sur certaines plateformes, ou achetez-le dans le commerce, pour les raisons que va énoncer Olivier Lam, qui sont les raisons qui sont nombreuses, on n'en doute pas. J'avais entendu que Sophia était émue par les personnes qui ont fait ce disque. Alors évidemment, votre avis peut-être n'aurait-il pas été faussé.
Je les trouve intéressants et prometteurs.
Mais elles sont dans le disque, les personnes qui ont fait le disque.
Bon, bref, moi, de la vraie personne que j'ai rencontrée.
Je cherche un peu une rhétorique qui serait pas trop éculée pour arriver à défendre malgré tout ce disque. Je trouve vraiment plutôt prodigieux.
Nous respectons vos goûts, Olivier, même si nous ne les partageons pas toujours.
Je reviens sur le côté débordant. Moi, je pense que c'est un disque qui déborde, effectivement. Je pense que leur troisième album, a priori, sera... Enfin, je pense que ça va continuer sur
le rythme. Du deuxième, allez.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont, ils sont sur un régime de, comment dire, on peut appeler de complaisance. Moi, je trouve effectivement d'enthousiasme, qui me rappelle celui d'un autre groupe qui a rapidement cassé les oreilles à tout le monde, et moi que j'ai adoré, surtout sur la fin, qui était les Fiery Furnaces, groupe de Matthew et Leonard Friedberger, qui aujourd'hui ont tous les deux des carrières solo plus ou moins heureuses, et qui étaient comme ça, à chaque fois que les gens disaient vous êtes allés trop loin, ils sortaient un projet encore plus long, encore plus délirant, encore plus cacophonique, etc. Alors évidemment, on n'est pas exactement sur la même école musicale, mais on est sur la même forme, qui est voilà, la spirale, le labyrinthe. Et moi, j'ai encore une fois, moi, le morceau qu'on a écouté avant, il me dérange pas du tout. J'adore Song Cycle de Van Dyke Parks, et je pense qu'on est vraiment sur une espèce de post-cabaret un peu décadent comme ça, et qu'ils le font très bien, parce que effectivement, on est dans du pastiche, mais enfin aujourd'hui,
mais qui n'est pas dans le pastiche. Pas pour jouer sur les mots, mais c'est un côté sage savant quand même dans cet album.
Précisément, et l'album s'appelle pas. C'est non, pas par hasard que l'album s'appelle Go to School. Ils embrassent évidemment
mais
ça.
Mais il n'y a pas de mise à distance.
Parce qu'ils ont eu un petit succès avec l'album précédent, en tout cas voilà, et que je pense que la meilleure manière de procéder pour la suite, c'est de tout faire exploser et de prendre en compte ça d'une manière. Voilà, dans un effectivement de tout faire déborder. Et moi j'aime les groupes qui aujourd'hui
ça déborde
faire déborder.
Pas du tout là.
Ah, ça déborde. Bah le morceau qu'on vient d'écouter, c'est pas le plus débordant, mais
tout l'album, ça déborde
pas. Il y a des morceaux qui sont à la limite du rock progressif.
C'est hyper cadré, c'est hyper référencé, vous l'avez dit. Pour le tout, moi j'entends toutes les ficelles sont des câbles. Là, on parlait tout à l'heure de ça pour Mitski, mais alors là vraiment tout est extrêmement balisé.
C'est un débat parce que la pop c'est toujours aussi un peu des ficelles. Voilà, donc
mais pour moi, elles sont vraiment énormes. C'est de la corde.
Pas, elles le sont pas pour moi. Je
pas
j'ai une corde qui vibre.
Ouais. Joseph Gauss.
Non, mais en fait, je trouve que cette espèce de mise en abîme de Back to School avec un disque qui est ultra référencé, j'ai l'impression qu'elle marche pas tant que ça, parce qu'effectivement, je vois pas non plus la licence. J'ai l'impression qu'ils ont accumulé les bons disques et qu'ils se sont juste demandé comment la reproduire. Alors effectivement, ils ont une technicité, ils ont un savoir-faire, ouais. ils sont très bons, mais à un moment, je ne sais pas s'il faut retourner à ces disques des années 60 ou s'il faut juste mettre les années 60 à la poubelle et n'écouter que celui-là. Du coup, voilà, la question en elle-même, elle est déjà assez caduque en fait. Donc voilà, moi ça me et puis surtout, effectivement, je le trouve long et qui ne donne pas envie d'avancer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis tiens, ça commence par un pastiche, ça va aller ailleurs après, et finalement ça retombe toujours dans cette même dialectique en fait, dans cette même impression. Donc voilà, c'est pour ça que ça me laisse en fait assez froid.
Tout heureusement.
Je tiens à préciser que les travaux solo d'Eleanor Friedberger, dont Olivier Lam parlait à l'instant, sont vraiment formidables et je conseille à tout le monde de les écouter très souvent.
Mais après, il y a peut-être quelque chose, puisqu'on a parlé de pastiche, c'est aussi quelque chose de symptomatique de l'époque. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde se met à faire des, plus ou moins des copies, des pastiches, etc. Même on en a parlé ici.
L'album Monkeys,
on a ce débat présentement à chaque émission.
Mais là, c'est tellement flagrant.
Mais justement, heureusement que c'est flagrant, parce que c'est une citation. En fait, je ne sais pas si on est dans le pastiche, enfin parfois dans le pastiche, effectivement, mais souvent dans la citation. Et pourquoi pas, on est en 2018, le passé est ce qu'il est. Et je trouve ça très bien de jouer avec ces citations, de les explorer à nouveau.
Oui, mais faudrait-il qu'il y ait exploration là, si dans la rentrée littéraire, un auteur arrive avec des pages collées, copiées-collées d'autres de romans des années X, 70-80, est-ce qu'on va dire que c'est formidable de créativité? Non, on lui dira, bah non, tu fais du copier-coller. Là, évidemment, en étant musique, le parallèle n'est pas exactement le même, mais comment est-ce qu'on avance ou comment est-ce qu'on ouvre un peu les oreilles différemment en faisant quelque chose qui ressemble à ce qui pourrait être du copier-coller en littérature, Olivier Lam?
C'est un sujet très large.
Oui, mais oui.
Mais c'est toujours. J'ai l'impression que le problème, c'est pas l'histoire de pasticher avec talent ou pas. C'est qu'on, il y a toujours un soupçon d'inauthenticité. Et effectivement, quand t'as un groupe totalement passionnés par une musique du passé, ont l'air de se contenter de la reproduire. Forcément, la première chose qu'on leur reproche, c'est de pas parler par leur propre voix. Moi, c'est plutôt c'est plutôt cette problématique-là qui m'intéresse, parce que en vérité, ce que je veux dire, c'est que voilà, Bob Dylan pastichait, Van Dyke Parks pastichait, Gershwin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que évidemment, on est pris dans un très vaste écheveau de miroirs, et que tout ça effectivement est extrêmement difficile à même si aujourd'hui on sait qu'effectivement l'autre souci, c'est qu'on a du mal à accorder du crédit à une œuvre quand elle n'a pas l'air d'être autant d'être implantée dans une histoire, et comme on a l'impression que l'autre présent est en crise d'histoire,
parce qu'elle est très jeune,
on a l'impression que des jeunes de 19 et 21 ans qui arrivent et qui
on a déjà dit c'est beaucoup de bien de gens de même âge, c'est pas la question.
Non, c'est pas ça, c'est la musique.
Vous avez entendu avec Sophie quelque chose en plus que nous n'avons pas entendu avec Joseph. C'est vraiment le débat ici.
Je pense que c'est simplement une histoire d'être touché ou pas par une.
Non, mais par ailleurs, moi, il y a quelque chose qui me gêne, notamment dans la comparaison avec Bob Dylan. C'est-à-dire que Dylan, lui, à un moment, prend le blues, qui est une musique noire, et il en fait quelque chose d'autre. Là, ce sont des gamins blancs qui refont la musique de gamins blancs des années 60. Et si on parle de pop, pardon, mais la pop aujourd'hui, ce n'est plus ça, en fait. La pop aujourd'hui, c'est du R&B, c'est autre chose.
Non, la pop, c'est plein de choses.
Ce n'est plus cette pop-là. La pop, ça, ce n'est plus de la pop. Ça, c'est un exercice réactionnaire et rétrograde. Je suis désolé, mais c'est
ça. Je trouve que ça marche plus, cette opposition de nouveauté. Parce que la nouveauté en soi, déjà, vendre la nouveauté comme un argument en soi, c'est déjà en soi un argument marketing et commercial qui est très peu opérant, puisqu'on sait à quel point le rap aujourd'hui est totalement obsédé par son passé. Donc je pense que tout ça est quand même.
Oui, mais le rap ne reproduit pas son passé, Olivier. Quand on écoute ce disque, on entend d'autres disques, et on entend des disques qui ont été faits il y a 30 ou 40 ans, exactement les mêmes.
On entend réécouter
Nirvana, c'est la même chose. On est dans la même chose. Si vous voulez pousser ça un peu plus loin, prenons par exemple le dernier album de Daft Punk sorti il y a 4 ou 5 ans, qui prenait ces mêmes thématiques un peu luxuriantes de ces disques-là, du Phantom of Paris, etc. Ils en ont fait autre chose. Qu'on peut aimer ou pas aimer, mais ils en ont fait autre chose, c'est quelque chose qui s'adapte à l'époque. Là, on est dans un exercice qui aurait pu être fait il y a 40 ans. Et c'est ça qui me gêne, ce n'est pas une question de nouveauté ou pas de nouveauté, c'est qu'on est dans la reproduction et dans du facsimilé. Et ça, je trouve que c'est aujourd'hui impossible.
Voilà. Bah, Daft Punk en a fait autre chose aussi, parce que c'était une manière de travailler très très synthétique, électronique, hein, d'ailleurs, et alors que là on est vraiment 100% dans de l'analogique. Alors oui, ça va dans le côté facsimilé dont parle Joseph, mais je crois qu'après on peut pas vraiment comparer et puis en plus les Daft Punk invitaient alors après vous allez me dire là ils invitent Todd Rundgren, mais oui. Là ils invitaient Nile Rodgers et en plus le rap tourne de plus en plus en rond, je pense, même s'il y a encore des choses complètement innovantes. Et évidemment, le rap cite les années 80, c'était quand même c'était il y a 30 ans. Donc ça fait déjà 30 ans que le rap peut se citer et s'auto-citer et copier des disques sortis en 85, 88, 94, 95. Eminem vient sortir un copier-coller des Beastie Boys, hein, plus ou moins. Donc,
Oui, bon, Eminem, c'est peut-être pas celui qui renouvelle le plus le rap en 2018.
Même si cet album est très bien, cela étant, j'aime beaucoup le nouvel album d'Eminem. Bon. Mais...
Ouais, dernier mot, Olivier Lam.
Non, mais moi, je ne vais pas me faire l'avocat non plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme de facsimilité, mais ce qui est étonnant, c'est que, à l'inverse, moi, comme Joseph, on est tous les deux très intéressés par des musiques de recherche, et qu'aujourd'hui, on sait à quel point même la musique de recherche est prise dans la même problématique de reproduire le passé, etc. Et aussi de. Et la grande question aujourd'hui, c'est comment on arrive à se produire à soi-même une légitimité quand on sait que 80% des disques qui sont vendus dans les disquaires indépendants, en tout cas, sont des rééditions. Mmh. Voilà. Donc on est quand même, c'est pas les seuls, les frères d'Adario à être pris dans cette,
d'école, voilà. Pour Back to School, ouais. Comprenez bien.
Go non, mais le projet en soi, il est très intéressant. Il est même plus, c'est même plus que ça. C'est simplement ce qui en ressort, qui,
voilà. C'est trop long et ça a énervé Joseph Grosz. Voilà, c'est tout. C'est très long et au bout d'un moment...
Ouais, un petit peu. Et est-ce que ça a énervé un ou deux auditeurs, auditrices, Maurice Pinot?
Sur Twitter, on est pour. Grégory Alexandre salue un hommage excellent aux opéras rock des années 70. Une merveille, écrit Franck Charbonnier. Et Framala, toujours sur Twitter, se souvient de leur passage aux Eurokéennes 2017 et avait été tout à fait convaincu.
Eh bien, est-ce qu'il sera convaincu s'il va à la Maroquinerie le 1er octobre à Paris? Nous le saurons peut-être le lendemain, puisque les Monk Twigs joueront donc ce soir-là. Go to School est sorti chez 4AD.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Et nous terminons cette dispute musique avec un album qui ne sortira que vendredi, celui des Spiritualized and Nothing Hurt. 6 années qui se sont écoulées entre ce nouveau disque et le précédent, année éprouvante selon Jason Pierce, le créateur du groupe. En 1990, après avoir quitté Spaceman 3, il est le seul membre permanent depuis de Spiritualized. Avant d'en parler de ce nouveau disque, on va écouter Perfect Miracle.
I'd like to sit around and dream you up a perfect miracle. Part the clouds and have the sun proudly shining on you. I take the stars as well and line them up to spell, darling, I love you. And little by little watch it all come true. I like to sit around and dream you up a perfect miracle. Catch the wind and have it blow all my kisses to you. I take the birds and teach them all the words of every love song I know. And I have them fly around and sing them all to you.
I don't know. 'cause you're the only girl I ever met who's honest and true. I'd like to settle down with you and mess around a house on the hill, and I'm sitting here hoping it'll all come true.
Spiritualized, Jason Pierce, pour l'essentiel. Joseph Ghost, vous commencez sur ce disque ?
Avec plaisir. c'est le 8e album de Spiritualized, et on pourrait se dire qu'il y a là aussi un petit effet un peu anachronique ou un peu nostalgique, puisque le morceau qu'on vient d'écouter a une mélodie qui évoque le morceau qui ouvrait déjà un album des années 90 qui s'appelait Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space. Le morceau était lui-même une sorte de pastiche, pour le coup, d'un morceau d'Elvis Presley. Il y a quelque chose qui est un peu similaire, sauf que là, alors que il y a 25 ans, le morceau racontait une histoire d'amour, enfin, c'était le début d'une histoire d'amour qui était en train de s'effondrer. Là, on est dans tout à fait autre chose, même si le morceau a l'air, lui aussi, là, de raconter une histoire d'amour, il raconte au contraire, plutôt une histoire de mépris, en fait, de mépris en train de s'installer. Et ça, je crois que c'est la première fois que j'entends Jason Pierce écrire comme ça, de manière aussi pas violente, mais un peu cruelle pour l'autre, et presque aussi précise, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a effectivement fait finalement depuis 1990 assez peu d'albums, 8. Il y a aussi deux ou trois lives, mais c'est quelqu'un finalement de peu de mots, et on peut avoir un peu de mal à vraiment pointer ce qu'il raconte exactement. C'était déjà le cas dans Spaceman 3. Ça a été beaucoup le cas chez Spiritualized. Mais là, il y a quelque chose d'un peu plus cruel qui se manifeste, un peu plus intime aussi. Et j'ai l'impression que ça vient aussi du fait qu'il a plus ou moins été obligé de faire ce disque tout seul. Enfin, une grande partie du disque a été réalisée par lui à la maison, après avoir appris comment faire. Il l'a fait notamment pour des raisons de financières. En fait, il avait plus d'argent à mettre dans les studios. Et donc, il s'est un peu... Il a un peu appris à faire son disque lui-même, mais tout en ayant en tête finalement aussi cette façon de très inspirée là encore des années 60, des studios des années 60, etc. Moi je trouve que c'est un de ces... Bon, je suis assez fan, hein, donc je ne suis pas très objectif, mais je trouve que c'est un de ses plus beaux disques, peut-être un des plus beaux depuis Ladies and Gentlemen, parce qu'il arrive à faire ce qui est le plus fort chez lui, c'est-à-dire cette espèce de rock assez mélancolique, à dépasser ses influences, que Jason est extrêmement influencé par les Stooges, le Velvet, etc. Parfois, ça a même été assez, comment dire, trop évident, notamment peut-être dans les deux albums précédents. Mais là, il y a quelque chose... d'assez beau, d'assez un peu cassé aussi, notamment dans ces morceaux, ces balades assez lentes.
Mais on se dit que ça va pas bien quand même.
Ça n'a jamais été très très fort.
Ouais, mais là,
ça n'a jamais été très
on
fort.
On s'inquiète un petit
mais
peu. Hein.
Mais il est tout de même assez bien conservé pour quelqu'un qui a une vie assez aussi habitée par la drogue, par ces espèces de lifestyle très rock'n'roll. Mais là, oui, il y a quelque chose de fracassé, mais aussi quelque chose de très beau, de très très calme aussi, comme qu'on a pu l'entendre sur ce morceau et sur plusieurs autres. Je trouve qu'il il a quelque chose qui excelle encore.
Sophie Rosemont sur Spiritualize et ce nouvel album qui sera disponible vendredi, je le rappelle.
C'est un très bel album, même si j'avais beaucoup aimé le précédent qui est sorti il y a 6 années. Sweetheart, Sweet Light, dont la pochette est l'une de mes plus préférées pochettes du monde entier. Je vous conseille de la regarder. Elle est à la fois drôle, intense, minimale, bref. Ce qui n'est pas vraiment Jason Pierce quand j'y pense. Il n'est pas très drôle, il n'est pas très minimal.
Il est très drôle.
Dans ses chansons, très drôle. Pas quand on le rencontre. Alors, quand on le rencontre, on rigole
forcément.
Ah, ça y est,
les rencontres avec les stars encore. Ah, mais non, on va changer le titre de l'émission maintenant.
Mais sa musique est fondamentalement... L'ami des stars.
L'ami des stars. On va faire un jingle, on vous le prépare. Sophie, l'ami des stars. Alors, Jason n'est pas drôle, alors.
Alors, non, et en fait... sa musique est fondamentalement mélancolique, ce qui est le cas de cet album.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, moi, ça me dérange pas du tout parce que c'est toujours mélancolie où il y a une pointe d'ironie, d'autodérision. Et puis là, effectivement, je la trouve un petit peu plus, cette mélancolie un peu plus sereine et assumée. C'est-à-dire que là, c'est bon, j'ai 53 ans, je sais que je suis triste, que je suis frustrée, que je ferai jamais assez bien. Quand je sors un album, je dis que c'est le dernier. Je dis que plus jamais on me reprendra à faire un album tout seul, que j'ai vraiment trop souffert. Je pense qu'il a dit déjà 50 fois, l'album n'est pas encore sorti. À côté de ça, évidemment, c'est une personnalité assez flamboyante, on va dire, dans le pseudo privé, très drôle, très curieuse, une personnalité très curieuse, très intéressée par la politique également. En tout cas, mélodiquement, je trouve que cet album est vraiment d'une qualité rare. Chaque chanson est vraiment très, très belle. Chaque chanson connaît une évolution qui suit celle de l'état d'âme du narrateur, enfin de Jason Pierce, on peut le penser souvent. Et il nous emmène un peu partout, il nous emmène quelque part entre Londres, où il vit, et la Californie. Et voilà, moi je trouve que c'est un disque vraiment réussi.
Olivier Lame, enfin.
Oui, je vais pas contredire, je suis un peu comme
vous pourriez.
Joseph et Sophie. Voilà, c'est un artiste que j'aime énormément. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le fait qu'il dise qu'il arrête à chaque fois qu'il fait un nouveau disque, c'est pas un truc de diva. C'est vraiment quelqu'un qui se pose
jamais la question
de savoir. Non, c'est vraiment quelqu'un qui se pose la question de est-ce que ça sert à quelque chose de sortir un nouveau disque. Et là, le paradoxe, c'est que c'est un énième disque de Spiritualize rempli de chansons.
Twigs, pour leur
non, mais voilà, on parle de vague. C'est quoi la nécessité de sortir un disque? C'est quoi la nécessité d'enregistrer une chanson? Et là, la question se pose à chaque fois avec Spiritualize parce que le disque ressemble au précédent. En même temps qu'on écoute le premier qu'on écoute le dernier, on voit l'évolution qui est énorme. Et en même temps, toutes les chansons de ce disque vont devenir nécessaires aux gens qui l'aiment. Donc il y a quelque chose quand même d'assez magique et de paradoxal. De la même manière, cette mélancolie, ce cynisme qui exprime en fait une sincérité totale. Donc c'est quelque chose d'assez rare effectivement dans la pop aujourd'hui. Et effectivement, on est dans un régime de musique populaire assez cynique. Et là, on a quelque chose qui est complètement à côté de l'époque, tout en la regardant. Donc c'est quelque chose de fascinant. Moi, je suis très intéressé par le fait qu'il ait fait le disque tout seul, quasiment, parce que moi j'ai toujours été fasciné par la tension entre l'intimité extrême que provoquent les chansons de Spiritualize et ses arrangements complètement Walt Disney, il se dit lui, enfin là il disait qu'il voulait
c'est
refaire.
Gentil pour Walt Disney.
La démesure. Lui, ses références c'était Gil Evans et Ray Charles, enfin les grands disques de Ray Charles des années 50. Et évidemment, au bout d'une semaine d'enregistrement studio, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'argent et qu'il était très très loin d'avoir terminé son disque. Il a dû apprendre avec un laptop. Et je trouve qu'on entend cette tension parce que du coup, ça rend le disque presque plus intime en fait et presque plus réussi. En fait, c'est paradoxal puisque moi, j'adore Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space. J'adore le suivant, là, dont le titre m'échappe, Let It All Come Down, qui était des disques, avec des, je sais pas combien de musiciens, orchestre, chœur, etc. Et je trouve que ça lui va bien, en fait, d'être obligé de reproduire ça avec pas grand chose.
Pas grand chose à découvrir le 7 septembre. Je plaisante. C'est vendredi que sort le disque nouveau de Spiritualize chez Fat Possum Records. Le disque s'appelle And Nothing Hurt. Et il sera en concert. Il y a deux dates en France pour Jason Pierce. Le 22 septembre à Angers et le 23 septembre au Cabaret Sauvage à Paris. Lui en concert, un mot, Joseph Gosne.
C'est
immanquable.
C'est immanquable. C'est très très beau. Et puis il a une posture sur scène, il est assis, il a ses lunettes noires, on dirait qu'il est défoncé, mais c'est super.
Bon, voilà, avec une pub pareille, allez le voir aussi en concert. comme chaque soir, Sarah Dion nous a rejoint pour le jeu de la dispute et va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir. Elle va nous donner sa réponse, Sarah.
Comment se nomme le détroit situé entre la péninsule malaise et l'île indonésienne de Sumatra ?
On fait répondre les critiques ou vous donnez la bonne réponse ?
Ah. C'est un disque spiritualiste, non ?
La réponse est, Sarah ?
C'était le détroit de Malacca.
Ce soir, on fait gagner des DVD du film La caméra de Claire d'Aung San Suu chez Jour de Fête. Quelle est la question ?
Durant quel festival le film La caméra de Claire a-t-il été tourné ?
Oui, là, on a tous peut-être la bonne réponse, mais c'était peut-être plus facile. Votre réponse, en tout cas, si vous, vous l'avez chez vous, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales. Tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner à l'indispensable podcast de la dispute. Vous pourrez préparer vos commentaires pour l'émission de demain, poster sur la page Facebook La Dispute FC ou en suivant le compte Twitter Dispute FC. Demain, 19h, émission Art Plastique avec Anaël Pigeat, Mathilde Villeneuve et Florian Guettet. Nous parlerons de Picasso, chef-d'œuvre. J'ai vu l'expo Picasso, ça faisait longtemps. C'est au musée Picasso à Paris. On parlera d'un architecte, l'expo sur Gordon Matta-Clark au Jeu de Paume. Et puis Madame R, proposition d'Annelise Broyer au musée de la vie romantique. Un coup de cœur de Florian Guettet sur Yann Vaux au CAPC Musée à Bordeaux.